Alors bonjour, donc je m'appelle Véronique, je fais partie de la communauté de l'Emmanuel de Paray-le-Monial. On m'a confié ce sujet passionnant de Paray à Fatima avec le cœur immaculé de Marie. Alors j'ai mis un sous-titre, de Paray à Fatima, en marche sous l'étendard des cœurs de Jésus et de Marie. Donc vous avez entendu parler des messages de Paray-le-Monial et de Fatima. Ils vous ont été présentés hier par le Père Louis-Pierre pour Paray-le-Monial et ce matin par Anna pour Fatima. On va s'intéresser à certains aspects de ces messages en les mettant en résonance avec nos propres vies. Voilà. Donc le but de cet enseignement n'est pas intellectuel. C'est pas que vous ayez un 20 sur 20 à une interro de comparaison entre les similitudes des apparitions de Fatima et de Paray-le-Monial, même si c'est très intéressant, c'est pas ce que je vous propose. Mon but est pratique, c'est de vous aider à accueillir ces messages dans vos propres vies. Donc l'angle que je vous propose pour ce sujet, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est pas complètement idiot, vous me direz, parce que quand on écrit un message à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas le message, mais c'est le destinataire du message, qui est la raison d'être et le but du message. Quand vous écrivez un message à quelqu'un, encore plus quand c'est une lettre d'amour, l'important, c'est la réaction que le message va provoquer dans la vie de celui qui, ou de celle qui reçoit la lettre, de sa réaction ou de son absence de réaction, de sa décision ou de son absence de décision. Donc le désir de Jésus et de Marie, lorsqu'ils viennent nous parler à Paray-le-Monial et à Fatima, c'est pas que nous connaissions leur message, même si c'est très bien, mais c'est que nous les vivions, ce qui est beaucoup mieux. Et là, il y a souvent un bug. Il y a deux bugs, en fait. Le premier, qui est fréquent dans la foi chrétienne, c'est que notre foi chrétienne reste un petit nuage abstrait et théorique au-dessus de nos têtes. On connaît la théorie, mais en fait, c'est quand même souvent désincarné, parfois désincarné, abstrait. Et du coup, c'est inopérant. Et il y a quelque chose de pathétique parce qu'on a un trésor et en fait, il n'agit pas. Donc, mon intention, si je peux aider à cela à travers ce temps d'enseignement, c'est d'aider à rendre concrets ces messages que le Seigneur et la Vierge Marie nous adressent à Paray et à Fatima, de montrer en quoi ils sont puissance et non pas seulement parole, et en quoi ils sont appelés à devenir vivants et feu dans nos vies. Le deuxième bug, donc le premier bug, c'est que c'est un petit nuage, un peu, les messages peuvent rester un peu désincarnés. Le deuxième bug, c'est quand la pluie descend en nous, ce qui est très bien, pour nous irriguer et nous transformer en profondeur. En fait, on sort les caouets et les parapluies. Et donc, ça ne rentre pas parce qu'il y a des obstacles. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous propose cet angle, nous, pour essayer de voir dans nos propres vies quels sont les obstacles que nous pouvons avoir par rapport à certaines des demandes que nous font Jésus et Marie à Fatima et à Paray. Donc, le ciel nous parle, à Paray-le-Monial et à Fatima. Que ferons-nous de ces messages? Alors, c'est vrai, soyons honnêtes, la plupart des lettres qu'on reçoit, elles finissent à la poubelle. Mais pas toujours. J'ai cette petit témoignage charmant d'une de mes nièces qui avait 3 ans et qui reçoit pour la première fois une lettre de son grand-père par le facteur. Et cette petite fille est débordante de joie avec sa lettre qu'elle ne veut plus la lâcher, donc elle monte les escaliers avec, elle descend avec, elle la met à côté de son assiette pendant le repas. Et puis elle finit par dire à sa maman, « Maman, quand j'irai au ciel, est-ce que je pourrai emmener ma lettre ?»« Mais bien sûr, ma chérie. » Comme ça, je la montrerai à Dieu. Alors, ce que vit cette petite fille, c'est ce qu'on peut lire dans le livre du Deutéronome. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison. Deutéronome chapitre 6. Eh bien, mes amis, heureux serons-nous si, quand nous irons voir Jésus et Marie au ciel, nous arrivons en brandissant quelques messages qu'ils nous auront adressés pendant notre pèlerinage sur la terre. Heureux serons-nous si ces messages ne restent pas lettres mortes. Heureux serons-nous si ces messages inscrits en lettres de feu arrivent à allumer ou à réallumer dans nos vies un feu nouveau, un feu joyeux, le feu du Saint-Esprit qui brûle dans les cœurs de Jésus et de Marie et qui veut brûler avec plus de force dans nos propres cœurs. Alors, à Paray-le-Monial et à Fatima, l'un des grands mérites, me semble-t-il, des messages, c'est qu'en fait, le ciel remet la boussole vers le nord et nous rappelle que nous sommes faits pour Dieu et que nous sommes faits pour le ciel. Et les messages de Paray et encore plus de Fatima ont comme grand mérite de nous redonner, de nous donner ou de nous redonner une conscience plus vive des objectifs supérieurs de notre vie. Voilà. Nous sommes faits pour le ciel, mais notre vie n'est pas une cour de récréation, vous l'avez remarqué. C'est pas une cour de loisirs et de détente. Ça, c'est la vie rêvée. Le réel, la réalité, c'est que notre vie se déroule dans un champ de bataille et que notre vie est un combat, le lieu d'un combat, un combat d'origine spirituelle qui est sournois, qui est violent, avec Satan qui essaye de nous priver non seulement du bonheur et de la vie terrestre, mais plus encore du bonheur et de la vie éternelle. Et donc, le Seigneur et la Vierge Marie viennent nous rappeler que la vie est un combat et qu'il s'agit de ne pas se tromper de combat. Et Marie, de manière très forte à Fatima, nous invite à entrer dans le combat de Dieu et fait écho à ces paroles de saint Paul dans la première lettre à Timothée. « Mets-toi, homme de Dieu, mène le bon combat, empare-toi de la vie éternelle. » Empare-toi de la vie éternelle. Alors, pour nous aider à laisser descendre et résonner donc certains aspects de ces messages du Christ et de la Vierge Marie, je vous propose un plan simple en trois parties. Dans une première partie, de manière très rapide et succincte, je vous donnerai les grandes similitudes qu'il y a entre les messages de Paray et de Fatima, pour donner une assise un peu stable à cet enseignement. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais faire un zoom sur deux demandes que nous font Marie et Jésus. L'inconvénient du zoom, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres choses importantes que vous ne regardez pas, mais ça permet d'aller en profondeur. Ces deux points seront les demandes qu'ils nous font sur la prière du chapelet et les sacrifices. Et dans un troisième temps, je voudrais prendre un petit peu de hauteur avec l'écriture et essayer de comprendre à travers quelques versets du prophète Isaïe ce qui est en jeu dans les apparitions de Paray et de Fatima. Ça va ? Alors, première partie, les similitudes qu'il y a entre Paray et Fatima. Dans les deux apparitions, c'est assez émouvant quand on découvre ça, est révélé un cœur couronné d'épines. Voilà. Jésus va montrer à Sainte Marguerite Marie dans une vision son cœur couronné d'épines, transpercé par la lance et surmonté d'une croix. Et trois siècles plus tard, Marie va montrer aux trois petits-enfants de Fatima, lors de la deuxième apparition et lors d'une des dernières apparitions, son cœur couronné d'épines. Et sœur Lucie dit que les enfants voient ce cœur qui est devant la main droite de la Vierge Marie, couronné d'épines, et ils comprennent que c'est le cœur immaculé de Marie qui est offensé par les outrages des hommes. Donc, grande similitude, il y a ces deux symboles des cœurs couronnés d'épines dans les deux apparitions. Et ces cœurs sont indissociables, ils vont ensemble. Et on voit dans les trois premières apparitions de Fatima, donc les apparitions de l'ange dont Anna a parlé ce matin, dans chacune des apparitions, l'ange va évoquer les cœurs ensemble. Donc il va parler dans la première apparition des cœurs de Jésus et de Marie qui sont attentifs à vos supplications. Dans la deuxième apparition, il parle des cinq cœurs de Jésus et de Marie qui ont sur vous des desseins de miséricorde. Et dans la troisième apparition, il évoque les mérites infinis des très saints cœurs de Jésus et de Marie. Donc il y a vraiment un lien très fort entre Pareil Fatima, à travers ces deux cœurs couronnés d'épines et unis. Les cœurs couronnés d'épines ont un sens qui est le symbole et la synthèse de l'ensemble des messages de Pareil et de Fatima. Le cœur couronné d'épines, c'est une déclaration d'amour, c'est une plainte et c'est un appel. Le cœur, c'est la déclaration d'amour, bien sûr, c'est le symbole de l'amour. Et ce cœur vient nous redire l'amour fidèle, éternel, quoi qu'il en coûte, de Dieu pour nous et de la Vierge Marie. La couronne d'épines qui blesse ce cœur, c'est une plainte. Vous nous déchirez le cœur. Et le cœur couronné d'épines, c'est un appel à notre compassion. Quelqu'un veut-il nous offrir la joie de son amour ? Quelqu'un veut-il nous consoler ? Quelqu'un veut-il réparer ? Quelqu'un veut-il nous enlever les épines de nos cœurs ? Donc, grande similitude, les deux cœurs couronnés d'épines. Et deuxième grande similitude, il y a trois appels identiques à Pareil et à Fatima. Consoler, réparer, intercéder. Ouais, donc ça, c'est vraiment commun, les grands appels qui s'élèvent de Pareil et de Fatima. Consoler, réparer, intercéder. Alors, consoler qui ? Consoler Dieu et la Vierge Marie. Réparer quoi ? Réparer les outrages qui leur sont faits. Intercéder pour qui ? Intercéder pour nous, pauvres pécheurs, et en particulier pour tous ceux qui sont à la porte de l'enfer. Comment consoler ? Comment réparer ? Comment intercéder ? Les demandes sont similaires. Jésus et Marie nous demandent notre amour qui s'exprime par l'adoration et la vénération de Jésus dans l'Eucharistie. Donc ça, c'est un message très fort et de Pareil et de Fatima. Par la prière, par les sacrifices et par la mise en place de dévotions qui vont être différentes dans chacun des lieux. Donc, à Pareil Monial, ces dévotions vont être l'heure sainte, la messe réparatrice des premiers vendredis du mois et la fête du Sacré-Cœur. Et à Fatima, les dévotions demandées par Marie vont être la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis du mois et la consécration de la Russie par le pape à Fatima. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une vue un petit peu d'ensemble et ça va me permettre de zoomer en détail de manière un peu plus zen. Donc, deuxième partie, je vous propose que nous nous intéressions à deux demandes que nous font Jésus et Marie. La prière du chapelet, qui est une spécificité de Fatima, mais comme Jésus accueille aujourd'hui dans la cité de son cœur la Vierge Marie, c'est honneur à Fatima, donc on va zoomer sur la demande du chapelet. Et les sacrifices, qui sont une demande commune et forte des deux lieux d'apparition. Donc, Jésus et Marie nous offrent leur aide et nous demandent notre aide. Il y a les deux. Ils viennent de manière insistante solliciter notre amour et notre liberté et ils nous remettent face à la possibilité incroyable que nous avons, qui nous est donnée, d'inverser le cours de l'histoire dans ce qu'il a de plus dramatique. Donc, pour nous, pour les chrétiens, il n'y a pas de destin tout écrit. Nous avons la possibilité d'inverser le cours de l'histoire et le ciel vient nous donner des armes spirituelles pour cela. Si nous ne nous en servons pas, il ne se passera rien. Si nous nous en servons, c'est de la puissance. Alors, quel est l'appel à l'aide que nous font Jésus et Marie ? Ils ont besoin de nous pour aider le monde à redonner à Dieu et à la Vierge Marie la place d'honneur et la louange qui leur reviennent. Ils ont besoin de nous pour donner la paix au monde. Ils ont besoin de nous pour aider les pécheurs à se tourner vers Dieu. Et ils ont besoin de nous pour sauver les âmes qui sont à la porte de l'enfer. Alors, qui sont ces âmes qui peuvent encore être sauvées de l'enfer ? Où les conduisent leur révolte et leur refus de Dieu. Il y a peut-être la foule de tous ces visages que nous n'avons jamais vus, Mais il y a peut-être aussi certains de nos proches. Ils peuvent être dans nos familles, ils peuvent être dans nos lieux de vie et de travail, dans le lycée du coin de la rue ou dans l'EHPAD de notre quartier. Pour les sauver de l'enfer, le ciel nous donne des armes de lumière pour que nous nous en servions. Donc le but de cette seconde partie sur le chapelet et les sacrifices, c'est de nous aider à mieux comprendre de l'intérieur ce que sont la prière du chapelet et les sacrifices dans la lumière de Dieu. Et j'aimerais aussi, en abordant donc ces deux armes, vous aider à lever certains blocages que nous pouvons avoir dans nos psychologies, dans nos esprits, dans nos cœurs, et qui peuvent nous empêcher d'accueillir et de mettre en pratique ces demandes que nous font Jésus et Marie. Alors, la prière du chapelet. On a beaucoup de mal avec le chapelet. On dit ça, chaque fois qu'on parle du chapelet, on commence par ça. En disant « Oh, le chapelet !» On coince un peu. C'est répétitif, c'est ennuyeux, c'est fastidieux. Une amie me disait encore l'année dernière « Je ne peux même pas comprendre qu'on nous demande ça. » Pourquoi trouvons-nous le chapelet ennuyeux? Il me semble que c'est d'abord parce que nous avons compris que c'était un devoir et nous n'avons pas vraiment compris que c'était un pouvoir. Ensuite, peut-être parce que nous faisons tourner le moulin à paroles qui brassent du vide et nous n'avons pas compris que le chapelet, c'était notre amour en paroles et que c'est l'amour qui devait faire tourner les grains du chapelet et que c'est cet amour que Marie recueille et qu'elle va bénir et démultiplier. Alors, le chapelet à Fatima, c'est quand même très impressionnant parce que Marie apparaît 6 fois et les 6 fois, elle va demander la prière du chapelet. Donc, on peut imaginer qu'elle ne fait pas l'aller-retour du ciel pour rien à chaque fois. Et donc, il y a un secret à découvrir dans le chapelet. Et donc, c'est ça que je voudrais vous aider à découvrir. Le 13 mai 1917, Marie dit « Récitez le chapelet tous les jours ». Le 13 juin, « Je veux que vous disiez le chapelet tous les jours ». 13 juillet, « Je veux que vous continuez à réciter le chapelet ». 13 août, « Je veux que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours ». 13 septembre, « Continuez à réciter le chapelet ». 13 octobre, « Que l'on continue à réciter le chapelet tous les jours ». Et à cette apparition, une dernière apparition d'octobre, elle donne son nom, « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Donc, je pense qu'il faut s'intéresser de près au chapelet. Elle va donner les raisons, hein, c'est pour que Dieu puisse donner la paix au monde, pour que la guerre cesse, parce que seule Notre-Dame du Rosaire peut encore secourir le monde, et pour que Dieu pardonne les péchés des hommes et pour qu'ils aillent au ciel. Alors, je ne vais pas vous faire un discours sur les chapelets, parce que si vous êtes comme moi, vous retenez mieux les exemples. Donc, je vous donne une idée sur le chapelet, quelques exemples, et ensuite on tirera les leçons. Donc l'idée, c'est que le chapelet est une arme de défense d'une puissance prodigieuse. C'est une arme de paix qui désarme la violence et les violents. C'est une arme de lumière qui met en fuite les puissances des ténèbres. Alors, je vais vous illustrer ça par quelques témoignages personnels. C'est pas pour le plaisir de vous parler de moi, parce que j'ai pas beaucoup de goût à l'exercice, mais c'est pour vous aider, vous parler de vous, et vous aider à ouvrir les portes de la foi, toutes grandes, au Christ et à la Vierge Marie. Donc dans la foi, nous avançons souvent à petits pas, d'étonnement en étonnement, devant ce que nous découvrons, d'émerveillement en émerveillement, normalement. Marie et le chapelet sont rentrés doucement et progressivement dans ma vie, et je suis passée du concept de la puissance de Marie et du chapelet à l'expérience de la puissance de Marie et du chapelet. Et entre le concept et l'expérience, il y a eu à chaque fois un effet « waouh », un étonnement, parfois même un effroi, devant ce mystère que j'expérimentais et que j'aime à découvrir, à décrire avec ces mots de l'Écriture dans le livre du Cantique des Cantiques. « Qui est donc celle-ci qui surgit comme l'aurore, redoutable comme une armée rangée en ordre de bataille ?» Alors, premier témoignage, je vais vous raconter comment j'ai été protégée d'une agression pendant que je priais le chapelet. J'étais étudiante à Paris, je revenais d'une soirée que j'avais passée avec des amis, il était à peu près minuit, J'étais dans le métro, Concorde ou Invalide, je ne sais plus, il y a des grands couloirs interminables. J'avais dans ma main dans la poche de mon manteau et je priais mon chapelet. Il n'y avait pas un bruit, pas une mouche. Et soudain, je sens quelqu'un derrière moi que je n'avais pas entendu venir, qui essaye de me mettre la main aux fesses. Et le temps que je comprenne ce qui se passe et que je me retourne, c'est comme si le gars s'était pris du 20 000 volts, il était en train de sprinter dans l'autre sens, partir comme un fou. Et là, je me suis dit, « Marie, il y a un gars pas clair, là, il faut que tu me protèges. » Donc, « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de ma mort. » J'essaye de ne pas courir pour ne pas montrer que j'ai peur. Et puis, je me dis quand même, on va se retourner pour voir si le gars est bien parti. Je me retourne et je vois le gars qui est en train de sprinter, il revient. Et donc moi, je suis pétrifiée, je le vois qui arrive en courant. Et à quelques mètres de moi, il s'arrête comme ça, comme si c'était pris une vitre, il ne peut plus avancer. Et il repart comme un fou dans l'autre sens. Et je dis, oula, on a du lourd là. Je continue à avancer, je me retourne une troisième fois et je vois le gars qui est tout au bout du couloir. Je vois juste sa tête qui dépasse, il avait l'air paniqué. Je ne sais pas ce qu'il voyait, je pense que j'avais l'air aussi paniqué que lui. Et le métro arrive, je prends mon métro. Bon, figurez-vous que je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Parce que j'ai pris souvent mon chapelet, mais je n'avais jamais rien vu d'extraordinaire. Et donc je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit j'ai vraiment une protection de compète, soit je suis tombée sur un gars qui a un problème psychiatrique fort. Et bon, on voit de tout en psychiatrie, hein. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres ici, mais ben, genre comme les scouts, hein, j'essaie de l'approcher sans faire de bruit, je la touche puis je repars vite en courant. Bon. Après, je reviens, puis je fais semblant que je me prends une vitre. À mon avis, c'est lourd, mais... En tout cas, je n'ai pas compris. J'avais cette question. Quelques mois après, je reprends le métro. J'ai la main dans ma poche de mon manteau. Je prie le chapelet. Je m'assieds et il y a en face de moi deux jeunes qui ont l'air hyper bizarres. Souvent, je leur parle. Les gens bizarres, on les tousse un peu, finalement. Ça se passe bien. Et là, je ne pouvais pas. Et donc, intérieurement, donc j'avais la main dans ma poche, je prie mon chapelet. Intérieurement, je dis, « Seigneur, je te demande pardon, mais je ne peux pas leur parler. » À ce moment-là, le gars qui est près de la fenêtre dit à son copain, « C'est pas la peine, elle prie la Vierge, viens on descend. » Et bien figurez-vous que c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui s'était passé la fois d'avant et que la puissance de Marie quand on prie son chapelet, c'est juste impressionnant. Voilà. Qui est donc celle-ci qui surgit comme l'aurore redoutable, comme une armée rangée en ordre de bataille. Une amie m'a raconté que lorsqu'elle était étudiante ou jeune pro, je ne sais plus, elle était avec des jeunes dans une voiture, elles étaient à fond, donc elles priaient à fond le chapelet et elles appuyaient à fond sur le champignon, 160 sur l'autoroute. Et là, il y a un pneu qui a explosé. Elle m'a raconté que la voiture a fait comme ça, gauche, droite, elle est venue se poser sur la bande d'arrêt d'urgence, elles n'ont rien eu. Un pneu qui explose à 160, c'est pouf quoi. Les secours sont venus et elles ont raconté, ils ont dit « Vous croyez en Dieu ?»« Oui !» Dernier exemple, j'ai eu une hospitalisation un peu longue il y a 7 ans et j'ai rencontré pendant cette hospitalisation une personne qui était en burn-out et qui était donc pour un long séjour et qui était très angoissée parce que il était dans un contexte d'endettement personnel maximum. Et il n'avait pas prévu cette hospitalisation, donc sa mutuelle ne prenait pas en charge les frais. Et tous les jours, il avait les frais de clinique qui s'accumulaient, donc il était hyper angoissé. Donc il était chrétien, ouvert à plein de choses, mais quand même une culture chrétienne. Donc je lui ai dit, écoute, il faudrait que tu confies ça à Saint-Joseph. Je te propose de faire une neuvaine, et puis tous les jours, tu pries une dizaine de chapelets. Un Notre Père dit, je vous salue Marie. Puis si tu veux, je le fais avec toi. Je le croise quelques jours après, il me dit... Mais Véronique, tu n'imagines pas la joie que j'ai dans mon cœur quand je prie le chapelet. J'envoie de l'amour à tous les malades qui sont à l'hôpital. Je dis, bon, un peu de fatigue, un petit coup, un peu d'émotion, ça va passer. Je le revois 15 jours après. Mais Véronique, tu n'imagines pas la joie que j'ai dans mon cœur quand je prie le Notre Père et le Je vous salue Marie. Malgré ma fatigue, je dis 10 chapelets par jour. Je dis, ou 10 dizaines, je ne sais plus. Enfin, ça faisait beaucoup, quoi. Il dit, j'envoie de l'amour à tous les malades qui sont à l'hôpital. Moi, je me suis dit, bon, feu de paille. Pas du tout. Il s'est converti grâce à la puissance de l'Esprit-Saint qui agit à travers ce chapelet. Il est venu à Paris plusieurs fois et il a lancé pendant des années des groupes de prières sur Internet pour inviter les gens à confier leurs malades et à s'associer à ces prières ensemble. Donc, quel est le message de ces témoignages? C'est que Marie, à Fatima, n'a pas fait l'aller-retour pour rien. Avec le chapelet, son cœur de mère met à notre disposition une arme puissante que Dieu lui a donnée, par laquelle elle peut déployer dans le monde sa mission et sa puissance de mère du Christ et de l'Église. Alors, leçon numéro 1, sur le chapelet. Le chapelet, c'est comme une carabine. Pour se protéger des bêtes sauvages, il ne faut pas les laisser dans le placard, il faut s'en servir. Donc la carabine, on appuie sur la gâchette, et avec intelligence. Et le chapelet, on fait tourner les grains avec intelligence, c'est-à-dire avec amour, avec confiance, avec gratitude. Leçon numéro 2, le chapelet, c'est comme un GPS. Marie vous guide à travers les dangers de la route pour vous amener à bon port, sain et sauf. Voilà. Et la manière dont cette voiture a été protégée quand il priait le chapelet, de manière miraculeuse, ça correspond à ce que Anna nous rappelait ce matin de ce que disait le pape, d'une main maternelle qui a guidé la trajectoire de la balle en évitant les organes vitaux pendant l'attentat du 13 mai et qui a protégé sa vie, en fait. Troisième leçon, le chapelet, c'est comme un pressoir à raisin. Vous mettez vos beaux grains dans les mains et dans le cœur de Marie. Alors, des beaux grains, hein, pas des raisins verts et pas mûrs, sinon vous récupérez du jus de chaussette. Hein. Vous mettez des beaux grains, tout votre amour que vous offrez à Marie, et l'Esprit-Saint en coule à flot, comme un vin excellent qui rend la vie et les forces à l'homme intérieur, à l'homme spirituel. Alors, attention, le chapelet, c'est une arme. Donc, il faut s'en servir avec prudence et avec discernement. C'est une arme de lumière pour lutter contre les ténèbres. Donc, évidemment, les ténèbres vont essayer de vous empêcher d'utiliser cette arme. Parce que le démon sait très bien que soit c'est lui qui vire le chapelet, soit c'est lui qui est viré par le chapelet. Donc, il va essayer de vous empêcher de l'utiliser. Mais vous savez maintenant, plus encore, j'espère qu'il y a une demi-heure, c'est que quand vous entendrez la petite rengaine qui vous murmure quand vous voulez prier le chapelet, ça ne sert à rien, c'est ennuyeux, vous répondrez, le chapelet, mais c'est trop bien, c'est merveilleux. Et vous pourrez même expliquer à vos proches pourquoi le chapelet, c'est merveilleux. Parce que quand vous tenez le chapelet, vous tenez la main de la mère veilleuse. C'est ça le secret du chapelet. Quand vous tenez le chapelet, vous tenez la main de la mère veilleuse. Et il ne peut rien vous arriver. Alors, deux pièges, et puis je termine avec le chapelet. On peut fausser les demandes de Notre-Dame du Rosaire en les détournant pour nos seuls intérêts. En fait, ce n'est pas ce que Marie vient nous demander, donc elle nous protège, mais elle ne vient pas nous demander de prier le chapelet pour nos intérêts personnels. Elle vient nous demander de prier le chapelet pour honorer Dieu et la Vierge Marie, pour donner la paix au monde et pour la conversion des pécheurs. Donc elle sollicite notre amour généreux et désintéressé. Et deuxième piège, c'est d'exiger de voir les résultats. Moi, j'ai prié plein de chapelets sans jamais voir de résultats, mais je les ai priés joyeusement. Pourquoi ? Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance et que je ne serai jamais déçue. Donc, chaque « Je vous salue » que je prie augmente ma joie, parce que je sais que c'est une bénédiction derrière. Parfois, je vois un effet, merci, c'est un encouragement sur la route, mais je n'ai pas besoin de voir pour croire. Alors, deuxième arme de lumière que Jésus et Marie, les cœurs de Jésus et de Marie viennent nous donner à Parémonial et à Fatima, les sacrifices. C'est une arme qui est puissante pour chasser les puissances du mal et obtenir la conversion des pécheurs. Donc ça, c'est caractéristique de Fatima, c'est pour la conversion des pécheurs, il faut faire des sacrifices. La prière ne suffit pas, en fait. Alors, les sacrifices, c'est pour les adultes comme les endives pour les enfants. Burk, burk, burk et reburk. Nous sommes dans une société qui ne se sacrifie plus. Notre monde moderne rejette le sacré et répugne au sacrifice. Qu'est-ce qui vaut encore de se sacrifier aujourd'hui ? Des gens qui se sacrifient, des gens qui font des sacrifices, tout de suite on se méfie. Viennent à notre esprit des idées pleines de suspicion, un mouvement de recul, des équilibres psychologiques, croyances archaïques, régressions doloristes. Alors, quand arrive un Arnaud Beltrame, qui avance désarmé devant un terroriste pour offrir sa vie en sacrifice de sauvetage pour une dame inconnue, notre monde est sidéré. La vache ! Certains diront, désabusés, il n'y a rien gagné. D'autres diront avec émotion, c'est beau. La Poste même s'en est émue, qui a annoncé récemment qu'elle allait faire un timbre à Arnaud Beltrame. Le sacrifice nous déplace de notre zone de confort. C'est très inconfortable, mais qu'est-ce que ça fait du bien au moral et à l'espérance ? Mais nous avons des verrous par rapport au sacrifice. Je ne sais pas si vous faites souvent des sacrifices, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, j'ai besoin d'être refinalisée régulièrement pour me remettre dans cette importance des sacrifices. Le premier verrou que nous avons par rapport au sacrifice, qui fait que nous n'entendons pas si volontiers l'appel du ciel à Fatima, et aussi apparaît, et d'abord dans l'Évangile, à nous sacrifier, le premier verrou vient de notre culture. Nous sommes dans une culture hédoniste, individualiste et matérialiste. Nous baignons dans une atmosphère qui revendique du matin au soir et du soir au matin le plaisir et le bien-être individuel. Et après moi, le déluge. Le mot d'ordre, c'est « chouchoute-toi, fais-toi plaisir, prends soin de toi, c'est l'essentiel ». Et dans les temps anxiogènes où nous vivons, cette philosophie nous va bien, car prendre un bon verre de vin nous détend plus que de ne pas en prendre, et prendre un bon bain chaud moussant nous détend plus qu'une douche froide. Nos résistances sont liées aussi au fait que notre culture est matérialiste et qu'elle tourne en dérision tout ce qui touche à la vie spirituelle et au sacré, et donc elle nous fait douter du fait que la vie spirituelle puisse avoir une puissance et une efficacité dans nos vies et dans le monde. C'est la même attaque dissuasive de l'ennemi que pour le chapelet. Le sacrifice, ça sert à rien, fais pas le malin, fais-toi du bien. Donc le premier verrou vient de notre culture hédoniste, individualiste, matérialiste. Le second verrou vient d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le sacrifice. On ne voit pas bien comment se priver de dessert ou d'une soirée Netflix va aider des gens désespérés à aller mieux et des âmes enfermées dans la haine et le blasphème à se tourner vers Dieu. Et nous avons raison de penser cela. Les sacrifices, les privations, les souffrances sont des faits négatifs et en tant que tels, ils sont impuissants à produire quelque chose de bénéfique ou positif pour les autres. Si je me pince très fort, là, ça ne va pas vous aider. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas sauver les autres par les sacrifices, mais par notre amour. Plus précisément, nous pouvons aider les autres par notre amour qui s'exprime jusque dans le sacrifice de nous-mêmes. Donc la souffrance des sacrifices garde sa valeur, mais pas comme une cause en soi de secours pour les autres, mais comme signe et preuve de notre amour. Et c'est cet amour offert à Dieu et venu de Dieu qui peut les aider. À Fatima, le ciel réclame avec insistance nos sacrifices comme dernier recours possible pour sauver des âmes qui ont refusé jusque-là toutes les offres de réconciliation et de repentir que Dieu leur fait. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie pour elles, dira Marie avec bonté et tristesse. L'ange de Fatima fait le même appel, offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. Et lorsque les enfants lui demandent « Mais comment ferons-nous des sacrifices ?» l'ange leur répond « De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice au Seigneur en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. » De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice au Seigneur. Alors, ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai lu, pour préparer cet enseignement, les mémoires de Sœur Lucie, c'est de voir le zèle avec lequel les enfants s'engagent avec tout l'amour de leur cœur généreux dans un corps à corps quotidien avec le sacrifice. des vrais petits héros, ces boutchous, de 7 à 10 ans, pour nos sociétés douillettes. Et donc, ils se retrouvaient le matin, ils discutaient entre eux. Aujourd'hui, nous n'avons encore rien sacrifié. Qu'allons-nous offrir à Dieu aujourd'hui? Donnons-nous goûter aux petits pauvres. Ne buvons pas d'eau, même s'il fait très chaud aujourd'hui. Offrons notre mal de tête sans nous plaindre. Acceptons sans rien dire tous les reproches furieux et les coups de bâton de nos familles. Fouettons-nous les jambes avec des orties. L'amour est inventif. Alors chacun pourra trouver les idées de petites choses à offrir avec beaucoup d'amour. Parfois, des grandes choses nous sont demandées et en fait, on est invité à les offrir avec amour. Mais les sacrifices volontaires, ce que le Seigneur nous demande, c'est des petites choses. Et du coup, de cueillir comme des fleurs sur le chemin tous les jours des petites choses à offrir. Alors, je vous donne un petit exemple personnel. J'ai lu dans une lecture qu'une personne avait choisi comme petit sacrifice de ne pas saler quand elle faisait sa cuisine. Alors, je me suis dit, tiens, ça, c'est une bonne idée pour le carême. Je ne vais pas mettre de sel dans mes escales dans ma cuisine. Et donc, au bout de 40 jours, j'arrive devant Marie avec mes 3 cuillères à soupe de sel. Ah, vous n'avez pas sauvé le monde avec ça. Donc ça, vous avez conscience de l'aspect dérisoire en fait de cette offrande. Mais en fait, Marie, elle était très contente. Elle m'a dit, mais ma petite fille, je te remercie, ça me fait très plaisir, je prends ton offrande. Et parce que tu t'es privée pendant quelques semaines du goût du sel, je vais m'en servir pour redonner à d'autres le goût du ciel qu'ils ont perdu depuis longtemps. Et continue comme ça. Cueille de tout ce que tu pourras, fais des petits sacrifices. Avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Lors de la béatification de la petite Jacinthe de Fatima, Jean-Paul II honorera comme modèle de vie chrétienne cette enfant généreuse, partie au ciel à 9 ans, qui se sera offerte, je cite, « héroïquement comme victime pour la conversion des pécheurs ». Il est des démons qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Nous avons du mal à accepter cela, que nous devons nous sacrifier pour gagner des combats. Nous rêvons de tout obtenir, tout de suite et sans investissement ni effort de notre part. Mais le ciel nous rappelle à Fatima et à Paris que ce n'est pas la loi de la guerre que de la gagner sans rien faire, et il nous donne des armes spirituelles. Par une petite privation imposée ou acceptée par amour, nous libérons et nous activons la puissance de salut de l'Esprit-Saint. En fait, quand on essaye de mieux comprendre ce qu'est vraiment le sacrifice et sa fécondité, on reprend simplement conscience de ce que savent très bien ceux qui observent la nature et qui essayent d'en comprendre les lois, c'est qu'il n'y a pas de bel épi de blé sans un petit grain de blé qui est mort. Et donc, c'est le petit grain de blé qui meurt dans l'obscurité, l'humidité, la solitude de l'hiver, qui va permettre le jaillissement de vie derrière. Pas de petit grain de blé qui meurt, pas de bel épi de blé. C'est une loi de la nature, c'est une loi de vie, c'est une loi d'amour, et c'est une loi de la guerre aussi. Élie de Saint-Marc nous rappelle cela, nous synthétise cela de manière magnifique. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Alors, je vous propose en dernière partie quelques versets du livre d'Isaïe qui m'ont marqué il y a quelque temps et dont je me suis dit, en fait, ça donne un éclairage très intéressant sur les apparitions de Fatima et de Par El-Monial, et sur l'enjeu qu'il y a derrière pour nous faire comprendre la stratégie du ciel et son intention à travers ces événements de Par et de Fatima. L'intention de la Providence à Par et à Fatima, c'est clair, hein, c'est nous réveiller. Réveillez-vous de votre sommeil. C'est de nous inviter à nous lever, petits et grands, à nous faire comprendre qu'on vit souvent très anesthésiés, passifs, inertes, devant les puissances du mal qui se déchaînent et qui gagnent les parties parce que nous, on ne résiste pas alors qu'on a les armes pour se défendre. Et donc, à Paré et à Fatima, le ciel vient nous réveiller. Réveillez votre amour pour Dieu et battez-vous pour son honneur. Réveillez votre amour pour vos frères et sœurs et battez-vous pour leur bonheur. Le ciel apparaît et à Fatima vient réveiller notre ardeur au combat spirituel. Et pour gagner ce combat, il nous supplie de nous mettre tous sous la protection des deux cœurs sacrés de Jésus et de Marie, qui seuls peuvent nous sauver. Alors je vous lis ces quelques versets au chapitre 13 d'Isaïe, versets 2 et 3. Le texte que je vous donne est issu de diverses traductions, donc si vous reprenez, vous aurez peut-être des mots un peu différents. Je vous le lis une première fois, si ce n'est pas clair du tout, ne vous inquiétez pas. Je reprendrai une deuxième fois en vous donnant une interprétation. Proclamation sur Babylone, ce qu'a vu Isaïe. Sur une montagne pelée, dressez un étendard. Criez vers eux, faites signe de la main, et qu'ils entrent par les portes de la noblesse. J'ai donné des ordres à ceux qui me sont consacrés. J'ai convoqué mes braves, les passionnés de mon honneur, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Alors, je reprends. Proclamation sur Babylone. Babylone, on le sait dans la Bible, c'est la ville qui est symbole de la corruption et de la décadence. Et dans Babylone, nous reconnaissons avec tristesse notre société dépravée dans son matérialisme et dans son athéisme sacrilège. Et voici ce que voit le prophète Isaïe. Sur une montagne pelée, dressez un étendard. Sur ces monts pelés, arides, desséchés, stériles, que sont devenus notre monde et nos vies sans Dieu, parce qu'ils ne se laissent pas irriguer par la pluie qui vient du ciel, Dieu demande par la bouche du prophète qu'on dresse un étendard. Avant même la création du monde, Dieu savait qu'il dresserait un étendard sur le monde, l'étendard du salut. Qu'est-ce qu'un étendard ? C'est un drapeau, une enseigne de guerre, un signe de ralliement et, pour ceux qui le suivent, un chemin qui s'ouvre en vue de la victoire. Avant même la création du monde, Dieu savait que sur cet étendard divin, seraient tissés les emblèmes de la victoire de Dieu et de sa revanche sur les ténèbres, deux cœurs couronnés d'épines. Cet étendard aux deux cœurs couronnés d'épines n'est pas simplement un signe de salut, il est puissance de salut. Il nous désigne l'amour du Christ et de la Vierge Marie comme seul secours et seul recours pour donner la paix au monde et la joie aux âmes. Alors cet étendard aux deux cœurs couronnés d'épines, nous sommes invités à en faire des millions et des millions de copies, de photocopies, de tableaux pour les mettre dans nos maisons, redonner au Christ et à la Vierge l'honneur qui leur est dû et nous placer sous leur protection. Jésus demande à Paris qu'on honore son cœur couronné d'épines et qu'on fasse faire une image qui le représente et qu'on honore cette image. Il dit qu'il lui plaît d'être adoré sous cette figure, donc du cœur couronné d'épines, et que partout où cette image sera exposée, pour y être particulièrement honorée, elle y attirera toutes sortes de bénédictions. Le Christ demande notre dévotion envers son cœur blessé, en particulier en honorant l'image de son cœur couronné d'épines. Il demande également notre dévotion envers le cœur blessé de Marie. Et Marie confirme elle-même cela dans la seconde apparition de Fatima. Jésus veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut, ces âmes seront chéries de Dieu. Alors partout dans le monde, des chrétiens ont compris ce cadeau que Dieu leur fait et mettent l'image des cœurs très saints de Jésus et de Marie dans leur maison. J'entendais le père Étienne Kern témoigner que lorsqu'il était dans les favelas au Brésil et qu'il a fait beaucoup de visites à domicile, il a été frappé de voir le nombre de tableaux avec le cœur de Marie et le cœur de Jésus qui trônaient dans les maisons. Et moi, j'ai fait cette même expérience dans une mission paroissiale que j'ai fait en Irlande du Nord il y a une vingtaine d'années avec la communauté de l'Emmanuel. Et en passant dans les maisons catholiques de Belfast, j'étais impressionnée de voir le nombre de Sacré-Cœur et de Cœur Immaculé de Marie qui étaient dans les foyers. Comme pour faire écho au psaume, tu as donné un psaume 60, tu as donné un étendard à tes fidèles, était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc ? Avec Dieu, nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Notre salut vient de Dieu, notre confiance est dans son nom très saint. Alors Isaïe continue. Criez vers eux, faites signe de la main. Le cortège qui se met en marche sur le chemin de lumière ouvert par cet étendard aux deux cœurs, il est actif, il est énergique, il est ouvert. Il ne s'agit pas d'avancer pour soi et pour son petit salut personnel, mais d'inviter avec énergie le plus grand nombre à rallier ce cortège pour les retirer de l'abîme de perdition où Satan les précipite en foule, dira Jésus lors de sa première apparition à Paris. Mais toi, homme de Dieu, mène le bon combat, empare-toi de la vie éternelle, pour toi et pour tes frères. Il ne s'agit pas de s'emparer de la vie éternelle que pour soi, mais pour nos frères. Qu'as-tu fait de ton frère, demande Dieu au chapitre 4 de la Genèse. Nous aurons à répondre de leur salut. Plaise à Dieu que nous ne répondions pas comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère ? Dieu nous demande de sauver les âmes. Nous aurons à lui en rendre compte, disait Pierre Goursat, fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Et qu'ils entrent par les portes de la noblesse, continue Isaïe. Cet appel s'adresse à nous. Veux-tu te mettre en marche et suivre cet étendard du salut de Dieu ? Veux-tu franchir les portes stimulantes de la noblesse et quitter les eaux stagnantes de la mollesse ? Te décideras-tu pour une vie joyeuse et courageuse de sainteté en renonçant au lit triste et amer de la médiocrité ? Qu'ils entrent par les portes de la noblesse. Que désirons-nous ? Cet étendard est une invitation pour tous. Il interroge notre liberté et notre projet de vie. Que préférons-nous vivre ? Naître fils de Dieu ou Netflix au pieu ? Il faut choisir. Dans les deux cas, il y aura un prix à payer, donc il faut réfléchir. Que choisis-tu ? Franchir les portes de la noblesse par l'amour de Dieu jusqu'au sacrifice de toi, dira saint Augustin, ou te vautrer dans les eaux de la mollesse par l'amour de toi jusqu'au mépris de Dieu, dira encore saint Augustin. Il nous faut choisir. Et ne pas choisir, c'est déjà choisir. Isaïe continue, « J'ai donné des ordres à ceux qui me sont consacrés. » Le Christ et la Vierge Marie cherchent des âmes qui leur soient consacrées, des alliés ardents pour les aider à sauver le monde de la guerre et de la condamnation éternelle. Voulez-vous vous offrir à Dieu en sacrifice ? Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Deuxième apparition de Fatima. Et enfin, dernier verset d'Isaïe, « J'ai convoqué mes braves ». Il y a une traduction qui dit « J'ai convoqué mes hommes forts », une autre qui dit « J'ai convoqué les guerriers de ma colère », « J'ai convoqué les passionnés de mon honneur, ceux qui se réjouissent de ma grandeur ». Alors, qui sont ces hommes forts, ces braves ? Ce sont des petits-enfants. À Fatima, le ciel est allé s'adresser à des petits-enfants. Voulez-vous vous offrir à Dieu en sacrifice ? Vous posez cette question à un adulte, il va vous dire « C'est quoi exactement, combien, pourquoi, combien de temps, intérêt, bénéfice, peut-être demain, mais là j'ai des trucs à faire. » Alors le CIA dit, écoute, tu réfléchis, là il y a des petits-enfants, je vais leur poser la question. Et alors j'ai vu un film de Fatima pour préparer ce topo, là, un film un peu ancien. Il y a une prise de vue qui est magnifique au moment où la Vierge demande aux enfants, « Voulez-vous vous sacrifier, vous offrir en sacrifice à Dieu ?» Il y a un gros plan sur le visage de la petite Lucie qui dit, « Oui !» C'est pour ça que le Seigneur s'adresse aux enfants, en fait. Alors, pour vous montrer que ces hommes forts, ces braves que Dieu cherche, ils sont chez les petits et ils dorment au fond de chacun de nous. Dieu vient réveiller le petit enfant courageux et généreux au fond de chacun de nous. Deux exemples récents, à Pâques, je parlais avec certains de mes proches, et quelqu'un me dit qu'à Paray, vendredi saint, il y a un petit garçon de 6 ans qui est allé au chemin de croix, et il insiste pour retourner à l'office de la croix le soir. Et sa maman lui dit, quand même, ça fait beaucoup, pourquoi est-ce que tu es sûre que tu veux y aller? Pourquoi tu veux y aller? Et le petit garçon répond, je veux y aller parce que je prie beaucoup pour quelqu'un, et parce que je veux consoler le cœur de Jésus. 6 ans. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui renchérit et qui dit, et dans telle famille, il y a un enfant, et bien très souvent, il ne prend pas de dessert parce qu'il veut aider les autres. Alors, dans la famille de cet enfant qui a 10 ans, ils ne sont pas couverts de bonbons et tout ça. Donc, quand le petit garçon ne prend pas de dessert alors que ses frères et sœurs, ils en prennent, ce n'est pas simplement parce qu'il aime que les salades de carottes, quoi. C'est vraiment parce qu'il a ce cœur d'amour généreux et sa joie, c'est de faire plaisir et qu'il est fort dans l'amour et dans la foi. Il sait que les sacrifices portent du fruit, il est content d'aider. Voyez, donc Marie et Jésus se déplacent pour venir nous réveiller et nous redonner, remettre dans nos vies cette urgence de remettre Dieu au centre, de lui rendre la gloire qui lui est due, de nous mettre sous sa protection, sous la protection du cœur du Christ et du cœur de la Vierge Marie. Alors pour conclure, je voudrais vous lire cette parole de saint Paul dans le chapitre 13. Du livre des Romains, verset 11. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Seigneur, sois béni de nous redonner ce week-end cette assurance de ton amour éternel et de celui de la Vierge Marie, qui nous accompagne par tous les temps et à travers tous les temps dans notre marche vers la maison du ciel. Merci Seigneur, merci Vierge Marie, pour ces armes de lumière que vous nous donnez, pour que la puissance de vos cœurs redonne à Dieu sa royauté dans nos vies et protège notre monde des pièges de l'adversaire. Seigneur Jésus, Vierge Marie, recevez l'offrande de nos vies en retour, pour vous réjouir par l'amour fervent de nos cœurs d'enfants et pour vous aider à notre tour à sauver nos frères en danger de mort éternelle. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, que votre règne vienne. On peut reprendre ensemble. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, que votre règne vienne. Amen.